Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Bonjour, je suis Pierrick Fay. Nous sommes vendredi et La Story, le podcast d'actualité des Échos, laisse sa place à Take Off. Pour cette saison 2, Guillaume Brégerat s'invite pour un petit déjeuner pas ordinaire chez les femmes et les hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Je vous laisse en tête à tête avec Guillaume Brégerat.
Octave. Bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Et merci de me recevoir à Paris. Alors c'est chez toi, mais c'est l'un des chez toi. Tu as plusieurs maisons, si j'ai bien compris, puisque maintenant tu habites aux États-Unis.
C'est ça, oui. On loue une maison à Dallas, oui.
Et alors comment ça se passe justement la vie aux États-Unis depuis 6 mois environ ?
C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir comment le marché avance là-bas, comment les gens y réfléchissent. Et moi, c'est cette émergence en fait qui est professionnelle que moi j'ai cherché en fait. À comprendre en fait vers où voir le marché, d'avoir l'accès direct à l'innovation et donc de pouvoir réfléchir beaucoup plus tôt qu'auparavant à des innovations que on doit proposer pour nos clients, vers où va le marché. Donc de ce côté-là, c'est hyper intéressant.
Et pourquoi tu as choisi le Texas ?
En fait, c'est très simple. On a racheté une entreprise il y a 2 ans aux États-Unis. Elle avait différents bureaux. Et celui de Dallas, il me paraissait le bureau où ils avaient le plus de potentiel. Donc il y a tout un travail qui m'intéressait à faire avec des équipes en interne pour expliquer comment on travaille ensemble et les différents modes de collaboration, les basiques en fait de l'entreprise. Et donc c'est là où je pensais en fait que si j'arrive à transformer ces bureaux-là, je vais y arriver dans n'importe quelle entreprise qu'on pourrait acheter dans le futur. Et donc ça m'intéressait de relever ces défis-là en fait.
Et alors, là tu dis les choses comme si ça s'était fait facilement, simplement, j'imagine que c'est pas le cas. Juste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien OVH, comment tu pourrais le décrire aujourd'hui ?
OVH est un fournisseur de cloud alternative. On fournit les ressources, on fournit des produits qui permettent aux développeurs, aux administrateurs système d'avoir des différentes typologies des outils numériques. On propose du cloud pour faire de l'infrastructure, on propose des plateformes pour faire des bases de données, de l'intelligence artificielle, de big data, du mobile, de tout un tas de choses qui actuellement poussent la transformation digitale. Donc on a implémenté en Europe, dans différents pays, et on arrive à proposer à tous ces clients-là qui sont en Europe une isolation légale des données vis-à-vis des clients qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. On est le seul à pouvoir le faire. Et donc derrière, avec cet attribut européen qui est l'écosystème, qui est la communauté, qui est les partenariats open source, openness, les standards, donc faire de sorte que les clients puissent venir chez nous et partir très facilement, les portes sont ouvertes dans les deux sens. Tout un tas d'attributs qui, moi, me parlent parce que c'est comme ça que moi, je voudrais être client d'OVH. Donc je ne vais pas bloquer le client, je ne vais pas lui donner des contrats 1 an, 2 ans, 3 ans et l'obliger à être client d'OVH. Moi, j'aime être libre. Je voyage partout, je suis installé à Dallas, j'étais au Canada pendant 1 an, je voyage, je construis OVH et j'aime cette liberté.
Alors là tu le mentionnes de manière générale, mais ce que j'aimerais bien creuser de manière un peu plus précise, c'est cette installation aux États-Unis, pour bien qu'on comprenne là où c'est important, c'est que c'est vraiment aussi pour protéger donc les clients qui sont en Europe du Patriot Act. Donc comment on peut aussi expliquer cette mécanique aux auditeurs qui pourraient pas forcément être au fait du sujet.
Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle Cloud Act et une deuxième qui s'appelle Patriot Act. Cloud Act, c'est une nouvelle loi qui a été votée il y a 1 an, quelque chose comme ça, qui dit que les entreprises américaines et le peuple américain doivent respecter la loi américaine, quel que soit l'endroit dans le monde. Et donc, les lois, ils disent, si je veux les donner, tu me les donnes. Là, il y a quand même un sacré problème, quoi. Ça veut dire que les lois locaux ne sont pas respectées. Nous, en étant une entreprise européenne, lorsque j'ai créé la filiale canadienne, lorsque j'ai créé les filiales américaines, j'ai énormément passé de temps sur les aspects légaux pour pouvoir isoler légalement et faire les murs de Chine entre les différentes entités pour qu'on puisse pas remonter des États-Unis vers l'Europe. Et donc l'entreprise, elle est déjà prête dans sa structuration légale pour aller un jour en Russie, en Chine, en Brésil, d'autres territoires, l'Inde, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Et avoir cette isolation légale, quel que soit l'endroit dans le monde. Et c'est ça qu'on propose à nos clients.
D'accord. Et pourquoi, toi, à titre personnel, cette question de la souveraineté européenne est importante ?
Je suis européen. L'histoire de ma famille, elle est purement européenne. Enfin, je veux dire, on a des bouts de famille en France, en Pologne, en Allemagne. La guerre première, on l'a fait des deux côtés. On a fait la Deuxième Guerre mondiale des deux côtés. Mes grands-parents sont partis en Pologne visiter la famille après la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont pas pu revenir pendant 40 ans. Mon père est né en Pologne en tant que Français. Moi, je suis né en Pologne en tant que Français. En 90, on a pu enfin revenir en France. Je veux dire, j'ai vécu l'histoire européenne et toutes ces différences culturelles, cette richesse qu'on a, on a traduit à travers la communauté européenne. C'est pas un pays, c'est une communauté. Et c'est quelque chose d'extrêmement innovant. Je me fais toujours la réflexion quand je vais des US au Canada ou de Canada aux US, je passe la frontière. En Europe, on a perdu on vit dans un espace qu'on veut partager ensemble. Cette envie de vivre de cette manière-là, moi, ça me parle. Et c'est pour ça, quelque part, j'ai envie d'aussi contribuer dans cette construction européenne en fournissant des moyens comme cloud à ce que les entreprises européennes puissent se développer sur numérique, faire des transformations digitales sur le numérique, en ayant toutes les innovations, en ayant toute la souveraineté des données et avec ces valeurs européennes. Moi, ça m'anime énormément.
Est-ce que tu te souviens comment cette appétence pour l'innovation est arrivée ?
En fait, sur la petite histoire, en Pologne, on avait économisé pas mal d'argent pour s'acheter une voiture d'occasion. On a économisé ça pendant des années et on est parti au truc où on pouvait acheter des voitures d'occasion. Et en fait, on n'a pas trouvé. Mais en revenant, on a passé par un autre parking où ils vendaient des ordinateurs. Et donc, on est revenu avec un ordinateur à la place des bagnoles après avoir économisé, je ne sais pas pendant combien d'années. Et l'aventure de l'ordinateur a commencé comme ça pour moi, en fait.
D'accord. Et rapidement, toi, tu t'es pris au jeu et
J'ai codé tout de suite. Moi, j'ai codé, ça devait être 7-8 ans. Mon frangin, c'est encore plus tôt parce qu'il a 7 ans de moins. Donc lui, il est né avec les claviers dans les mains.
Mais de manière instinctive ou il y avait des gens pour t'aider ?
Non, on avait des journaux, etc. Je codais avec ça et après, j'avais différentes idées. J'ai codé pas mal de logiciels. Il y en a un où j'ai rempli toute la mémoire. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, j'ai rempli toute la mémoire de l'ordinateur. Et à un moment, j'ai out of memory. C'était marrant, en fait, de voir que... Et j'ai codé ça. Et puis, je dépannais des systèmes dans le Caucase ou dans les différentes entreprises qui plantaient. J'avais 12, 13 ans, 14 ans. Je débuguais, en fait, les systèmes informatiques pour les entreprises. Et je pouvais pas être payé, donc j'étais payé en chocolat. C'est qu'en Pologne communiste, c'était quand même un sacré truc pour avoir du chocolat, donc c'était un bon deal quand même. Donc je me souviens que régulièrement après l'école, les gens ils m'emmenaient faire des tours dans les différents bureaux pour que je dépanne les trucs et je revenais le soir, j'avais un chocolat.
Et alors comment tu arrives progressivement, finalement assez vite, à l'histoire d'OVH ? Et c'est une histoire familiale d'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir en dire davantage, mais qu'est-ce qui t'amène à cette idée-là en particulier ?
Ce qui s'est passé, c'est que je faisais des études à l'ICAM, j'étais en quatrième année, et on commençait à avoir les accès Internet, etc. Il y avait différents accès à Internet et je trouvais ça fabuleux. Et à un moment, en fait, je commence à vouloir pousser le code sur l'Internet pour voir le truc fonctionner, pas un truc statique, mais quelque chose de dynamique. Aujourd'hui, c'est banal, mais en 87, 88, c'était assez, assez innovant. Et donc, ça m'a ouvert tout un tas d'idées en disant, waouh, on peut tout faire, quoi. C'est incroyable. Donc, je commence à passer pas mal de nuits dessus. Et pour mon stage ingé, je suis parti en Angleterre, 6 mois. Ça devait être en 98 et j'ai passé en fait 6 mois à coder. J'avais un peu d'économie, j'ai tout claqué dans l'accès. Je suis revenu à sec, mais c'était incroyable en fait. Et donc je codais auverge.net et j'offrais des services gratuits pour rendre les sites dynamiques. Donc les sites, globalement, il y avait des hébergeurs statiques, on pouvait mettre des pages web statiques. Et donc moi, je codais des petits logiciels en fait qui rendaient les pages statiques un peu plus dynamiques. Et donc on avait un compteur de visites, un guestbook, un petit forum, des petits trucs en fait qui, d'un coup, il y a l'intérêt de revenir, et ça a créé une communauté. Tout était gratuit en fait. Et donc l'hébergeur qui m'hébergeait à l'époque, il m'a à un moment envoyé un email en disant il y a beaucoup trop de trafic sur ton site, ça prend trop de ressources, je dois arrêter ton site. J'ai dit stop, n'arrête pas mon site, je peux te faire de la pub et en contrepartie, est-ce que tu peux m'aider à mettre en place un serveur dédié pour que moi je puisse bouger mon site web sur ce serveur-là et que j'ai mes propres ressources. Il m'a dit ok. Et donc, je suis descendu de Doncaster par Londres. Ma mère m'a acheté un ordinateur. J'ai pris ça sur le bras, j'ai pris l'avion. Je suis parti de l'autre côté. J'ai payé les taxes à la douane et je voulais louer la bagnole pour aller en Pennsylvanie parce que c'était là-bas et j'avais pas l'âge pour louer la bagnole aux US. Donc, le gars, il a fait la fleur en m'envoyant une limousine qui m'a conduit pendant 2 heures ou 3 heures vers chez lui. J'ai passé une semaine à installer le serveur. Et c'est là, en arrivant en fait dans les fameux data centers où j'allais héberger mon serveur en fait que j'avais sur le bras, en fait c'était pas un vrai data center, c'était une cabane au bois au fin fond d'un jardin avec une connexion internet par cuivre qui venait par les lignes téléphoniques. Et donc quand on entrait dans la cabane, l'ordinateur était sur la table et les miens étaient, il m'a posé juste à côté. Pour le brancher, il a débranché tout l'internet parce que c'était encore en 10 mégabits BNC, donc il a mis en panne 100 serveurs pendant 3-4 secondes. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, waouh, t'as, je vais faire ça moi. Je vais faire ça, mais je vais faire ça beaucoup mieux que ce qu'il fait. Et donc, je suis reparti dès là avec un serveur installé, mais aussi tout un tas de nouvelles idées de tout ce que je pouvais faire. Et donc, quand j'ai fini les études, j'ai essayé de bosser dans une boîte standard. Et au bout des 3 semaines, j'ai dit stop, je peux plus. Et j'ai démissionné au bout des 5e semaine.
C'était quoi l'inertie
J'avais besoin d'être connecté aux clients. J'avais besoin d'être connecté à l'internet. J'avais besoin d'être ces interactions. J'avais besoin de ces échanges-là. J'avais besoin de partager. J'avais besoin d'interagir et avoir du sens de ce que je fais. Et donc j'ai créé OVH pour 2 raisons. C'est que je voulais faire une boîte différente où les rapports humains seraient différents, presque amical. Cette communauté en fait des gens, c'est ça qui m'intéressait à faire dans un cadre professionnel où on se dit le boulot ça peut être aussi super sympa. Ça ne doit pas être forcément un truc chiant où le matin c'est pénible pour y aller, le soir on est content de rentrer et puis lundi, c'est dur. Moi, je voulais faire l'inverse, en fait. Je voulais faire un boulot où on dit, on fait notre passion. On fait un truc hyper passionnant, qui nous dévore de l'intérieur tellement c'est waouh, on s'y réalise. Et donc, je voulais proposer, en fait, ça comme travail.
Mais à ce moment-là, est-ce que tu comprends que le sujet que tu es en train d'adresser, c'est un peu comme les vendeurs de pelles au moment de la ruée vers l'or, quoi. C'est-à-dire que c'est eux qui sont devenus riches, c'est eux qui ont détenu un peu la valeur. Est-ce que tu comprends à ce moment-là que ce sujet-là, c'est celui qui peut vraiment faire une très très grosse entreprise ?
J'ai jamais rêvé d'une grosse entreprise. Ce que je voulais toujours, c'est faire mes petits trucs. D'accord ? Donc moi, je suis un dev à la base, j'ai fait du sysadmin, et c'est ça qui m'intéresse à faire. Pendant très longtemps, on n'avait aucune conscience de ce qu'on faisait. D'accord, on n'avait aucune conscience de l'impact sur le marché. Et à la limite, on s'en fout, en fait. C'est pas ça qui nous a vraiment motivés, c'est ce qui nous motive encore. L'idée, en fait, c'est faire cette aventure humaine et faire ces innovations autour de l'ordinateur, de l'Internet, de l'accès pour aider les gens à innover, en fait. Je me souviens que très longtemps, on n'avait pas de système de renouvellement. Les clients commandaient la première fois, mais on ne le renouvelait pas. jusqu'à ce qu'à un moment on se dise non, en fait il nous faut un peu d'argent quand même, donc on va coder cette partie là et on a codé, on a demandé s'il vous plaît si vous pouvez renouveler le service au bout d'un an ou deux ans, ça aurait été bien, parce que c'était pas la motivation de l'entreprise. La motivation, c'était toujours ces deux choses là l'argent aujourd'hui il est important dans la mesure où c'est un moyen de croître et de faire de nouvelles choses. Et on a plein d'idées. Et il nous manque des moyens. Et donc forcément, on a envie de faire du chiffre d'affaires pour avoir encore plus des moyens de faire des trucs encore plus grands et des nouveaux services qui vont encore plus aider les clients et donc de réinvestir.
Est-ce que tu te rends compte, à quel moment tu te rends compte quand même que ça devient quelque chose de, qui compte? Et en tout cas, le regard des gens change sur OVH. Est-ce que tu le perçois, ça?
En fait, on n'a jamais écrit quelles étaient nos valeurs, la mission, etc., parce que c'était tellement limpide et fort que ce n'était pas nécessaire de l'écrire. Et donc, on l'a commencé à écrire il y a moins de deux ans, en fait. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, quand on a fait entrer autant de gens, qu'il y avait des malentendus sur nos valeurs, sur la mission, sur comment on doit travailler ensemble, sur la collaboration, tout un tas de choses qui, moi, me paraissaient... juste anodin, en fait. C'est juste, j'ai jamais connu une autre boîte. D'accord? Donc, je ne pouvais pas savoir que notre boîte, elle est différente. C'est qu'on a construit, elle était tellement puissante, tellement innovante, tellement différente, qu'il y a des gens qui sont retrouvés en disant, moi, je comprends pas. Mais comment tu peux pas comprendre? Je veux dire, on collabore. D'accord? On travaille ensemble. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On est tous là, en train de résoudre des différents problèmes, et chacun a sa mission, mais on y va tous ensemble. Oui, mais je comprends pas. Donc là, c'était vraiment un choc, en fait, en disant que waouh. Mais quand je me rappelle, je me suis toujours dit, encore 5 ans, qu'on recrutait toujours des jeunes après les études, jamais quelqu'un avec l'expérience. Et donc c'était une feuille blanche à écrire dessus, donc on pouvait l'adapter par rapport à notre entreprise. Et là, avec les recrutements de gens avec l'expérience, etc., on se retrouvait à ces chocs culturels. Et donc, ça nous a poussé à écrire les missions, les valeurs, mais aussi mieux organiser l'entreprise, trouver une sorte de hiérarchie à la OVH, en fait. Donc, le premier organigramme d'OVH, je crois que ça date il y a 3 ans. On s'est forcé à l'écrire parce qu'à un moment, il en fallait.
Au bout de 17 ans ou 16 ans d'existence.
C'est vraiment incroyable, en fait. Et c'est là que je commençais à prendre conscience en disant, je crois qu'on a fait un truc différent, vraiment différent. Et je pense que le pourquoi nous a animés pour créer ça, c'est le pourquoi on a réussi. Pourquoi une boîte comme OVH qui est partie avec rien à Roubaix et aujourd'hui est face à des plus grands géants du net, Amazon, Google, Microsoft, arrive à s'en sortir. L'innovation technique, ok, c'est une partie. On n'est pas mauvais dedans, mais les gars en face, ils sont très bons aussi. C'est qu'il doit y avoir autre chose. Et cette autre chose-là, c'est nos valeurs, la manière de s'organiser, la manière de partager le quotidien ensemble, de travailler, de délivrer des choses, de gagner de nouveaux paris, en fait, je pense que c'est ça, en fait, qui nous fait réussir. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, californiennes qui réussissent et qui ont réussi. Google, par exemple, ou d'autres typologies des boîtes, Facebook, dans ces premières phases de développement, en fait, ils ont fonctionné de cette manière-là aussi. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est un pattern de pas mal de boîtes qui réussissent. Et lorsqu'on essaye de mettre une manière d'organiser ancienne et hiérarchique, en fait, les boîtes, elles fail. Parce qu'il n'y a pas le temps, en fait, dans les startups. On a très peu de temps. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut bosser tous ensemble. Il faut partager l'information. Il n'y a pas tous ces jeux de pouvoir, des politiques, etc. Et moi, c'est ça qui m'a fait que je veux continuer à avoir chez OVH. C'est cette mode de survie. Même si aujourd'hui on est beaucoup plus grand, on fait 600 millions de chiffre d'affaires, on va faire 1 milliard dans 3 ans. Donc je peux dire, c'est bon pour vous. Non, moi c'est tous les matins, je me lève et je suis en mode survie. D'accord? Je m'impose d'avoir ça, c'est-à-dire, non les gars, c'est une question de vie ou mort dans la journée en fait. On fait des trucs dans la journée, on doit délivrer dans la journée parce que sinon c'est la mort le soir. Et donc j'essaie de maintenir ça, ces rythmes de travail, pour moi, pour les équipes. Donc oui, je bosse pas mal. J'essaie de donner une direction à l'entreprise. On bosse pas mal, on bosse beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension sur ça quand on a recruté des gens. Une boîte cool, ouais, on est cool. Mais attention, c'est pas peut-être le même cool que vous pensez, en fait. Donc on est en train d'encore bosser là-dessus pour repréciser chaque mot, pour dire, non, cool, c'est pas exactement ce que vous voulez dire, en fait. Non, on bosse dur, on est ambitieux. On a une ambiance décontractée entre nous. On est simple, mais ce qu'on fait, c'est des trucs des malades. On a une responsabilité vis-à-vis des données. Donc, c'est repréciser tous ces mots-là pour pouvoir décrire l'aventure dans laquelle est OVH et recruter sur les bonnes bases.
Ouais, il y a une personnalité, je voudrais qu'on aborde aussi, qui est importante dans ton histoire, en tout cas qui l'a été à un moment donné, c'est Xavier Niel.
Oui.
Qui te décrit comme un héros français à la vie de Rome.
Comment, il est gentil, Xavier.
Comment s'est passée la rencontre et comment il t'a aidé au tout début?
Ah, c'est incroyable en fait. J'ai démarré aux US, mais juste après, quand j'ai créé l'entreprise, il fallait que ça soit hébergé en France. Donc j'ai trouvé un hébergeur et en fait, on avait pas mal de croissance. Donc on avait des nouvelles installations très rapidement. Et en fait, à un moment, ça marchait plus en fait. On était tellement gros chez eux, on consommait tellement de bandes passantes, des différents trucs, ça marchait plus très bien. Mais on avait des contrats d'un an ou deux ans, je sais plus. Et en fait, il fallait qu'on trouve une solution. Donc, par je sais pas quel biais, on se retrouvait en contact avec Rani et avec Xavier. Je me suis retrouvé en contact avec eux et on a échangé et ça a fitté très vite, en fait. Et donc, ils m'ont proposé de reprendre leurs anciens bureaux, en fait. Et donc, je suis allé voir avec Rani les locaux et c'était dans une cave de baies, etc. Moi, c'était le rêve, quoi. Là, je voyais plein de baies, plein de connexions. Ça y est, c'est bon, je peux croître ici, c'est bon. Donc, je déménage tout. Et là, on a commencé à croître à mort et on a rempli tout ça. Je crois qu'on a un an ou 200. Donc, après, je dis à Xavier, bon, et là, j'ai besoin de plus. Donc, il m'a trouvé d'autres places à Courbevoie. Et en 2003, je dis, j'ai besoin encore plus, t'as pas d'autres trucs? Et il me dit, là, je peux plus, j'ai pas de data center pour toi. Par contre, j'ai un bâtiment à Paris 19 que nous, on va se débarrasser, on veut plus. Si tu veux, tu peux visiter et regarder si ça t'intéresse de l'acheter. Ok, mais les banques, elles me prêtent pas de l'argent. Donc, je suis allé à la banque et ils m'ont dit, non, on peut pas prêter. Xavier, il m'a dit, si tu veux, je te prête de l'argent. Pas de problème, en fait, t'es un crédit à 10 ans, on s'en fout, en fait. J'ai dit, OK, allez, bingo. Et donc, vers mi-2003, on a acheté le bâtiment. On a fait du water cooling là-dessus. C'est assez complexe, en fait. Il y a des habitations en haut, etc. Donc, on a dû chercher en profondeur, à 60 mètres de profondeur, l'eau fraîche qu'on reprend pour pouvoir refroidir les data centers et les réinjecter dans la nappe phréatique. Tout à fait légal.
C'est bien important de préciser parce que ça peut interpeller.
Non, mais il y a plein d'entreprises le font à Paris. Il y a énormément d'installations. Et aujourd'hui, on refroidit tous les serveurs avec de la flotte. 350 000 serveurs physiques, dont 28 data centers partout dans le monde, qui tournent avec le water cooling. Et ça nous donne des avantages incroyables, en fait, en termes des investissements. Juste, il faut voir, c'est que globalement, lorsque je compare avec un data center standard, je consomme la moitié. Donc mes prix, ils sont beaucoup moins chers que ceux de mes concurrents. Et c'est comme ça en fait qu'on a mis en place l'une des innovations d'OVH. C'est grâce à Xavier, c'est grâce à ces bâtiments-là, c'est grâce aussi aux contraintes. C'est vraiment on réfléchit sur la contrainte. C'est génial en fait d'avoir les contraintes en fait. C'est là qu'on innove, c'est là qu'on crée quelque chose de nouveau. Et moi j'adore travailler sur la contrainte.
Ok, écoute Octave, merci, grand merci
beaucoup.
Et puis à bientôt j'espère.
Merci Guillaume Brégeras pour ce petit déjeuner instructif. Take-off par La Story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Hittel, Nicolas Jean, chargé d'édition Michel Varnet. Si la technologie vous intéresse, vous pouvez retrouver d'anciennes émissions de La Story consacrées à la 5G, à Doctolib ou encore aux femmes de la tech. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.